Alors ce matin, je vous propose d'aller visiter, ou plus exactement revisiter, un texte qui est, je pense, relativement bien connu, mais qui fait souvent grincer des dents. Et c'est parce que j'en avais marre de grincer des dents que je me suis penché un peu plus en détail sur ce texte et que j'y ai découvert autre chose que le fait de grincer des dents, mais qu'on pouvait aussi éprouver une sorte de paix et de joie intérieure en lisant ce texte. Mais je vous propose d'abord de prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la liberté et la grâce que tu nous fais de pouvoir encore être réunis aujourd'hui dans la paix, ici dans ce temple, alors que d'autres n'ont pas cette liberté partout dans le monde. Et nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous fais de pouvoir lire, méditer, étudier ta parole, alors que dans le monde également, des populations entières, des fois, n'ont qu'un fragment de ton écriture pour pouvoir la lire. Merci parce que ces textes sont anciens, mais parce qu'ils nous parlent encore aujourd'hui. Et ce matin, nous voulons encore ouvrir nos cœurs et nos esprits à la lecture de ta parole, à ce que tu veux encore partager avec nous ce matin, et nous te remercions pour cela, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vous propose de lire tout de suite le texte que j'ai choisi pour ce matin, et qui se trouve donc dans l'évangile de Luc. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres encore qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Après avoir accompli quantité de miracles et de guérisons, après avoir débattu âprement avec les pharisiens et les scribes, après avoir nourri des foules entières, 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, c'est le temps de se poser pour Jésus. En tout cas, dans la narration biblique de l'évangile de Luc, eh bien ce passage intervient comme une halte au milieu d'une profusion d'actions. Jésus prie. Il prend ce temps et avec ses disciples. Et au milieu de nos journées bien chargées, de nos occupations diverses et variées, eh bien cela reste un exemple à suivre pour nous. Prier, se mettre à l'écart, eh bien c'est souvent l'occasion de faire le point, le bilan, de regarder en arrière et évaluer ce qui a été fait, et aussi envisager l'avenir. Pour Jésus, c'est aussi le moment de faire le point, loin de la foule et des pharisiens, faire le point de cette première partie de ministère, et pour faire ce point, eh bien, il sollicite l'avis de ses plus proches collaborateurs, les disciples. Nous pourrions penser qu'il va leur demander ce qu'ils ont pensé de cette première partie de ministère, de cette première partie de mandat, ce qu'il avait fait ou ce qu'il avait dit, est-ce que c'était bien ou pas, est-ce qu'il y avait des choses à améliorer. Mais non. Non, surprise, Jésus leur commande une étude sur sa cote de popularité. Or, il faut savoir que Jésus vit dans une époque très particulière, voire même, on peut dire, unique en son genre. En effet, plusieurs prophéties de l'Ancien Testament faisaient converger l'idée qu'à ce moment-là de l'histoire allait surgir le Messie, c'est-à-dire loin de Dieu, le choisi de Dieu. L'attente était tellement forte que les historiens ont recensé plus de 100 candidats messie qui se seraient déclarés à cette époque-là. Le caractère du messie, que le messie devait revêtir, eh bien, prenait diverses formes selon les juifs. Les judéens voyaient surtout en lui, eh bien, un prophète. Les Esséniens qui vivaient, vous savez, là où on a trouvé les manuscrits de Qumran, eh bien, attendaient, eux, deux sortes de messie. Un messie roi et un messie plutôt, entre guillemets, chef religieux. Mais plus étonnant encore, peut-être ce que l'on sait moins, c'est qu'il semble qu'il y ait aussi eu une attente unique chez les païens. Les historiens Tacite et Suétone témoignent à la fin du 1er siècle, début du 2e, eh bien, de l'attente des dominateurs du monde qui viendraient de la Judée. Virgile rapporte l'oracle de la Sibylle de Cum qui annonce la venue de la Vierge et de son enfant merveilleux qui apportera l'âge d'or. Et enfin, il semble scientifiquement prouvé maintenant que les astrologues babyloniens avaient aussi calculé avec une étonnante précision eh bien, la venue de l'étoile du Messie, le dominateur du monde. C'est donc, quand Jésus parle, tout le Proche-Orient qui semble en véritable effervescence et dans l'attente de ce dominateur du monde. Or, il s'avère que la cote de popularité de Jésus, eh bien, elle est assez bonne. Puisque selon ses collaborateurs, eh bien, le peuple pense qu'il est soit Élie, soit Jean-Baptiste, soit un des anciens prophètes ressuscités. Et au travers des réponses de la foule, eh bien, on comprend que les gens ne se trompent pas sur Jésus et qu'ils ressentent qu'il n'est pas comme les autres. Petit à petit est en train de se créer dans la conscience collective eh bien, cette idée que peut-être il est enfin ce fameux libérateur, ce sauveur qui est tant attendu par la nation d'Israël et qui va enfin délivrer le peuple de l'oppression romaine en particulier. Mais tout cela est encore confus dans l'esprit des gens qui ne savent pas encore trop vraiment quel statut lui attribuer et pour l'instant ils préfèrent le voir surtout comme un prophète, un grand prophète comparé aux prophètes les plus anciens ou même modernes comme Jean-Baptiste qui était renommé dans le pays. C'est très flatteur pour un fils de charpentier d'un petit village que personne ne connaissait il y a encore peu de temps. Mais cela n'impressionne pas Jésus, semble-t-il. Maintenant, il va plus loin et il s'adresse directement à ses disciples pour leur demander qui il est selon eux. C'est Pierre, leur porte-parole, qui leur répond « le Christ de Dieu ». Et Pierre ajoutera dans l'évangile de Matthieu « le Fils du Dieu vivant ». Pour ceux qui ont côtoyé Jésus depuis des mois, ça n'est pas exactement la même chose que la foule. Eux aussi pensent que Jésus n'est pas quelqu'un comme les autres, qu'il est différent. Après l'avoir vu vivre au quotidien, après l'avoir entendu à de nombreuses reprises de façon publique ou privée, après l'avoir vu agir dans bien des circonstances variées, eh bien, ils commencent à se forger la conviction que Jésus est peut-être bien ce Messie tant attendu, le Christ, et peut-être même le Fils de Dieu. Pas juste un prophète comme il en a tant existé, mais vraiment le libérateur d'Israël, pas seulement au sens politique du terme, mais aussi au sens spirituel du terme. Qu'il est ce aussi, pour dire autrement les choses, ce dominateur du monde attendu par les païens. Et Matthieu nous dira que c'est poussé par l'Esprit et bien que Pierre donnera cette réponse à Jésus. Et pour nous, qui est Jésus? Spontanément, en tout cas pour nous qui sommes croyants, nous répondrons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur. Mais cela fait partie de nos acquis, de nos évidences. Mais si nous prenions un peu de recul, si nous faisions une pause justement au milieu de notre vie trépidante, si nous passions cette question au crible de notre quotidien, quelle serait notre réponse? Serait-elle aussi évidente? Serions-nous capables de répondre à cette question que par des réponses positives? Il est possible qu'avec le temps, les changements de vie, nous ayons fini par voir Jésus autrement que comme le Fils du Dieu vivant, mais plutôt comme le Fils d'un Dieu lointain qui ne s'intéresse pas à nous, qui nous délaisse même et qui peut-être nous laisse livrer à nous-mêmes, à nos souffrances, à nos soucis, à nos maladies. un Dieu en quelque sorte presque pervers qui prendrait plaisir à nous voir souffrir, un Dieu incompréhensible face aux circonstances douloureuses que nous traversons et qu'il semble permettre. Nos peurs, nos angoisses, nos colères, nos lassitudes n'ont-elles pas changé peu à peu la perception et l'identité que nous nous faisons de Jésus ? Oui, qui est Jésus pour moi aujourd'hui ? En tout cas, pour Pierre, en ce moment-là, il n'y a pas de doute. Jésus est le Christ de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus confirme que ce que Pierre déclare est juste. Mais il surprend ses disciples en leur interdisant d'en parler autour d'eux. Après tout, cela peut se comprendre. Pour qu'il arrive à devenir un leader incontestable, il faut préparer son futur règne dans le secret, avant qu'il n'en soit empêché. Oui, mais alors, quelle est sa stratégie pour arriver au pouvoir ? Une stratégie bien étrange. Souffrir beaucoup, être rejeté par les chefs religieux, mourir et ressusciter, 3 jours après. Cette stratégie-là, eh bien, elle semble incompréhensible pour les disciples. Qu'il faille souffrir et essuyer du rejet pour arriver encore au pouvoir, passe, cela peut se comprendre. Mais mourir et ressusciter, voilà bien une fin étrange pour un futur dominateur du monde et une vision déconcertante du futur avec la résurrection à laquelle tous les Juifs ne croient pas nécessairement. Si Pierre a bien admis que Jésus était le Messie, le Fils du Dieu vivant, il ne peut cependant pas concevoir que Jésus finisse ainsi. Un homme avec un tel potentiel qui finirait ainsi, mais quel gâchis pour le peuple d'Israël et accessoirement pour les disciples dont Pierre. Aussi, Matthieu et Marc nous rapportent que Pierre prend Jésus à part et lui dit qu'il espère bien que cela ne se finira pas comme cela. Non, ça ne finira pas comme Jésus l'a annoncé. Et l'opposition de Pierre face à ce qui attend Jésus met en lumière ses véritables motivations et ses véritables convictions sur son identité. Pierre veut se ranger en quelque sorte derrière un chef religieux, un chef politique, un futur dominateur du monde, un maître qui saura le protéger, le garder, le défendre, le guérir et lui assurer ainsi un avenir prospère en étant un de ses collaborateurs. Pierre veut un Messie à suivre, derrière qui se planquer peut-être pour ne pas avoir à assumer qui il est vraiment, ou bien un Messie sur qui se décharger de ses responsabilités. Mais Jésus, lui, n'est pas quelqu'un, ne veut pas de quelqu'un qui le suive ainsi. Et il reprend vertement Pierre, en l'assimilant à Satan, et en lui disant sèchement, « Mets-toi derrière moi, puisque c'est la seule place qui lui revienne, étant donné qu'il ne pense que comme les autres hommes. » Et Jésus en profite donc alors pour s'adresser aux autres et pour leur lancer un appel inattendu. Si quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il le suive. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ces paroles ont rarement laissé insensibles ceux qui les ont entendues. Cet appel est entendu en général de la façon suivante et pour caricaturer. Si on veut suivre le Christ, il faut s'apprêter à renoncer à soi-même, accepter de ne plus avoir de vie propre. Il ne faut plus vivre que pour Jésus et plus pour nous. Nous ne devons plus nous autoriser à vivre pour nous-mêmes, mais seulement pour Jésus. Il nous faut nous préparer à une vie mortifère, à une vie de souffrance évoquée par le fait de prendre sa croix de chaque jour et suivre Jésus. En résumé, le christianisme, présenté ainsi, eh bien serait une vie de sacrifice et de souffrance, une sorte d'hymne aux martyrs. Dépeint ainsi, eh bien, cet appel a suscité 2 réponses en général. Soit cet appel est insoutenable pour celui qui l'entend, parce que vivre une vie où on ne s'autorise plus à vivre librement, vivre une vie de sacrifice et de souffrance, s'aliéner à quelqu'un et souffrir toute une vie lui paraît impossible. Il préfère rejeter l'appel du Christ pour vivre sa vie comme il l'entend et la vivre avec le maximum de plaisir tant qu'à faire, carpe diem. Cet appel fait ainsi partie de ces versets clés qui ont fait buter des personnes qui étaient dans une recherche sincère de Dieu, mais qui finalement les ont empêchés de venir à Dieu parce que la vie avec Dieu qui leur était ainsi proposée, dépeinte, eh bien, leur était trop difficile à vivre et ils ont renoncé. Ou bien alors, eh bien cet appel est entendu autrement et est reçu autrement par des hommes et des femmes qui se sont construits d'une certaine façon. Ce sont des personnes qui, en général, eh bien, se déprécient, qui ont une mauvaise image d'elles-mêmes, qui pensent que de toute façon, eh bien, elles ne méritent que de souffrir dans la vie. À cause des circonstances de vie qu'elles ont traversées, eh bien, elles pensent qu'elles n'ont pas le droit de vivre. Elles ne s'autorisent pas à vivre, à profiter de la vie parce qu'elles sont certainement coupables de quelque chose qu'elles ont fait dans le passé et qui fait que c'est en quelque sorte, eh bien, leur punition que de vivre une vie de souffrance et de sacrifice. Cet appel peut donc être entendu comme un hymne aux martyrs qui sublimerait la vie chrétienne et lui donnerait un sens particulier et une dimension hors norme. Et bon nombre, eh bien, d'hommes d'Église et de prédicateurs appuient sur la détente de la culpabilité pour pousser des croyants sincères, mais englués dans un tel état d'esprit, à envisager la vie chrétienne ainsi. Or, de ces deux réponses à l'appel de Jésus, eh bien, aucune ne me satisfait. Et je me suis donc penché avec attention sur le texte biblique original pour essayer de voir si je ne trouverais pas, eh bien, une autre façon d'envisager cet appel de Jésus. Et au fil de mes lectures, de mes vérifications, eh bien, j'en suis arrivé à trouver une autre réponse à cet appel. Et pour cela, eh bien, il faut reprendre l'étymologie des mots grecs qui sont utilisés et la définition qu'on en donne habituellement dans les traductions et en particulier dans nos traductions françaises et reprendre les interprétations de ce passage. Si quelqu'un veut venir après moi, le mot grec qui est utilisé ici et que je vous ai indiqué signifie « aller derrière ». Autrement dit, si quelqu'un veut aller derrière Jésus, si quelqu'un choisirait de laisser Jésus imprimer le mouvement, le laisser aller devant, s'en remettre à lui comme un chef, un guide, qui prendrait en charge entièrement sa vie, qui prendrait les décisions pour lui, un peu comme le font les parents avec les jeunes enfants d'une certaine façon, ou plus encore comme le fait le maître avec l'esclave ou bien l'ingénieur avec le robot, si quelqu'un veut vivre sa vie en donnant procuration à Jésus, eh bien qu'il dise non à lui-même, qu'il refuse une relation de ce type, c'est-à-dire une relation une suivance en quelque sorte d'un esclave qui obéit et qui souffre sans broncher. Et le mot grec qui est utilisé par Jésus ici a plusieurs sens. Il est souvent traduit par « renoncer à soi-même », c'est-à-dire s'oublier, ne plus s'autoriser à vivre. Ainsi, traditionnellement, on entend eh bien, cette phrase comme le fait de littéralement s'écraser soi-même pour ne plus vivre que pour celui que l'on suit. Mais une autre définition de ce mot grec a souvent été oubliée dans nos traductions françaises. Ici, on pourrait entendre l'appel de Jésus à dire « si pour toi, moi Jésus, je suis un futur dominateur du monde, à la manière d'un Napoléon ou d'une espèce de Führer devant lequel tu désires t'effacer pour ne faire que lui obéir et le servir, eh bien refuse cette pensée, refuse cette vision, cette conception-là que tu as de moi et de notre relation. Dis non à toi-même et refuse ces pensées et ces représentations et prends ta croix chaque jour. » Cette expression, elle est devenue tellement forte qu'elle est passée dans le langage commun, n'est-ce pas ? Et elle évoque ce fait que, eh bien, porter sa croix de chaque jour, c'est porter une vie difficile, un poids pénible. C'est une vie qui évoque un quotidien lourd à porter, rempli de souffrances et de douleurs. Et faisant suite immédiatement à l'évocation par Jésus de sa passion à ses disciples, eh bien, cela pourrait se comprendre. Mais le terme grec signifie ici, en fait, lever, soulever, s'emparer, d'où l'idée d'ôter, supprimer. La croix est un instrument qui fait de nous des êtres passifs, en quelque sorte paralysés, attendant lentement que la mort nous envahisse. Elle fait de nous, en quelque sorte, des morts vivants. Mais en jetant un regard neuf, à la lumière de l'étymologie du verbe qui est employé ici par Jésus, eh bien les choses prennent un autre relief, un autre visage. Cet instrument de supplice qui fait de nous des êtres passifs, paralysés, morts vivants, eh bien nous sommes appelés à le lever, à le soulever. Et quand on soulève quelque chose, eh bien, on en acquiert le maniement et on le maîtrise. En l'occurrence, soulever notre croix chaque jour fait référence à ce fait que chaque jour, nous désirons renverser la situation pour ne plus être des êtres passifs, paralysés et morts, mais bien des êtres vivants et libres. Et sur le chemin où se trouve Jésus, eh bien, nous sommes appelés à être les porteurs souverains, triomphant de notre destin de créature destinée à mourir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. En effet, rappelons, Jésus a triomphé de la mort une fois pour toutes, en ressuscitant. Nous devions mourir sur la croix parce que nous étions pécheurs et parce que le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. Mais Jésus est mort pour nous, à notre place, sur cette croix. Et il a pris nos péchés sur lui. Et il nous a introduits aussi dans une vie nouvelle, une vie d'éternité en ressuscitant le troisième jour. Et désormais, c'est chaque jour que nous sommes appelés à soulever cette croix qui voudrait à nouveau nous paralyser, nous empêcher de vivre pour nous voir comme des créatures libres et vivantes et vivre de cette façon-là. Qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alors, en principe, nos versions françaises traduisent le mot grec utilisé de la même façon qu'elles ont traduit le premier mot que l'on a vu et qui signifie également « si quelqu'un veut me suivre ». Mais ici, le mot grec est différent. Il est utilisé dans le sens de « accompagner ». Quand quelqu'un a refusé de suivre Jésus en le considérant comme un chef auquel il faut se soumettre sans broncher, ou quand quelqu'un a refusé de suivre Jésus comme un maître derrière qui on peut se fuir et ou se planquer par peur ou par angoisse de vivre, quand il a réalisé ce qui s'est passé à la croix et qu'il a choisi de vivre sa vie de façon nouvelle et différente et de façon triomphante, eh bien, il peut rejoindre Jésus sur le chemin et l'accompagner. Nous ne sommes pas des êtres planqués derrière un leader qui nous protégerait de la mort et d'une vie trop dure. Mais, en entendant, en recevant cet appel de Jésus, eh bien, nous pouvons au contraire être restaurés dans notre dignité d'être vivant, d'être humain, parce que, eh bien, nous avons la grâce d'accompagner Jésus. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus nous considère comme un vis-à-vis. Il nous rappelle que nous sommes à l'image de Dieu, et que le projet de Dieu, au départ, en créant en l'homme, était de pouvoir avoir cette relation de vis-à-vis que le péché s'est évertué à détruire toujours plus. Nous nous construisons selon notre lieu de naissance, selon notre culture, notre éducation, notre vie familiale, et souvent l'image que nous nous faisons de nous-mêmes, que nous nous bâtissons de nous-mêmes, est une image qui est faite d'une mauvaise estime de soi, d'un sentiment d'infériorité qui engendre plein d'attitudes, de pensées, de motivations négatives. Mais Dieu nous invite, en Jésus, à aller avec lui sur le chemin de la vie. Et Jésus nous promet qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Cette présence est d'autant plus effective que l'Esprit-Saint a été répandu en nous et que celui-ci scelle cet accompagnement divin quotidien. Nous ne sommes plus seuls sur la route. Nous n'avons plus à avoir peur ou à avoir honte de nous-mêmes peut-être. Jésus est là, nous témoignant chaque jour son amour et sa bonté qui nous donne la force d'être enfin nous-mêmes. Alors que pouvons-nous retenir en conclusion de tout cela? À nous, hommes et femmes du XXIe siècle, retentit cette lointaine question « Qui dites-vous que je suis ?» Qui donc est pour nous Jésus aujourd'hui? Puis, après avoir répondu à cette question, eh bien notre texte nous invite à aller plus loin dans notre réflexion. À part Jésus, qui est important dans ma vie aujourd'hui et quelle place y prend-il? Y a-t-il quelqu'un qui prend les personnes que je fréquente, que je côtoie, plus ou moins? Tiennent-elles une place d'accompagnant dans ma vie? Ou bien prennent-elles une place qui ne doit pas être la leur et qui est une place de leader, de quelqu'un qui prend notre parole, qui nous empêche d'être nous-mêmes? Ainsi, ce texte nous invite à repenser nos relations, et ce qui les motive. La vie chrétienne, ensuite, n'est pas une vie chrétienne mortifère, constituée de sacrifices et de souffrances. Certes, être chrétien ne nous empêche pas de vivre dans un monde corrompu par le péché et livré à l'entropie et d'en subir les conséquences en étant exposé à la maladie, à la souffrance, à la peine, à la peur, à l'angoisse, etc. Mais l'appel que Jésus nous adresse ici est un appel à la vie et à la liberté qui nous procure une joie et une paix sans commune mesure avec ce que le monde dans lequel nous vivons peut nous offrir. Ensuite, l'appel de Jésus est un appel à prendre sa vie en main en lâchant prise à la croix. Et il est possible que peut-être nous ayons peur de vivre, que nous soyons effrayés par un monde menaçant. Il est possible qu'au fil du temps, nous nous soyons construits une image de nous-mêmes négative, faite d'un mélange de culpabilité, de sentiments d'infériorité et de mauvaise estime de soi. Il est possible que nous ne parvenions pas à nous accueillir nous-mêmes, à nous accepter nous-mêmes, et ce d'autant plus que nous ne cessons de nous comparer aux autres et de chercher dans leur regard, eh bien, leur approbation. Il est possible que nous ne nous autorisions pas à vivre parce que des circonstances de vie ou bien des personnes nous ont signifié que nous ne méritions pas de vivre et que nous n'avions pas de place dans ce monde. C'est à nous de trouver cette croix de chaque jour. Oui, de trouver cette croix de chaque jour et qui peut prendre bien des visages, des formes différentes dans le temps. C'est à nous de trouver cette croix que nous subissons chaque jour dans notre vie, qui nous fait de nous des êtres passifs, paralysés, comme morts-vivants, et quand nous l'avons trouvée, eh bien nous sommes appelés à la soulever de façon triomphante. À la croix, mon vieil homme est mort avec Jésus et je suis désormais une nouvelle créature. Jésus m'invite à l'accompagner sur un chemin nouveau. Et à partir de ce jour-là, eh bien la reconstruction de mon moi profond a commencé et ne s'arrêtera plus. C'est un processus de vie, mais rien n'est acquis. Et chaque matin, la construction reprend vie. Chaque matin, il nous faut peut-être laisser s'éteindre les cendres du passé, sans attiser les peurs du futur, pour construire du nouveau avec du nouveau. Oui, chaque matin, il nous faut peut-être laisser s'éteindre les cendres du passé, sans attiser les peurs du futur, pour construire du nouveau avec du nouveau. Chaque matin, au moment de reprendre la route, Jésus est là. Il nous attend avec patience, avec bonté, avec amour, prêt à nous accompagner pour un nouveau bout de route. Il est le bon berger qui désire prendre soin de nous et être avec nous. Cessons de faire dans nos vies du hors-piste alors, où rôdent les lions et les loups de nos vies qui veulent nous dévorer, et reprenons notre route avec Jésus. Paisiblement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que en Jésus, tu nous offres la vie et une vie abondante. Tu nous offres la possibilité d'être des êtres régénérés, nouveaux, avec une nouvelle identité. Tu nous offres la possibilité de pouvoir être restaurés. Tu nous offres la possibilité d'être à nouveau à ton image. Mais des fois, le chemin est long. Des fois, il n'est pas facile. Mais Seigneur, ça n'est pas derrière toi que nous voulons nous trouver, mais avec toi, sur le chemin. Peut-être avons-nous une croix, entre guillemets, qui, chaque jour, nous paralyse, nous rend passifs, nous empêche d'être nous-mêmes. Mais Seigneur, c'est à toi que nous voulons remettre cela. Nous voulons la soulever, ne plus la subir, mais en toi, être victorieux et prendre en vie en main nos vies, mais par ta grâce, et t'accompagner sur le chemin, te donner la main, et quand il y a des cailloux, quand ça monte trop, quand c'est trop difficile, eh bien, te laisser aussi nous porter, être avec nous. Seigneur, nous te remettons tout ce qui est lourd dans notre vie, toutes ces croix, entre guillemets, qui nous font ployer sous le poids, sous leur poids. Nous les remettons au pied de ta croix, celle où tu es mort pour nous, celle où tu as pris nos péchés, celle où tu as permis que la vie puisse renaître, puisse prendre forme pour nous. Nous te remettons tout cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.